Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Laetitia De Witt.
Madame, Monsieur, bonjour. À l'heure du bicentenaire de la campagne de Russie, Canal Académie vous propose une série d'émissions sur l'épisode le plus tragique de l'histoire de l'Empire. Rappelons-nous, en 1812, après avoir conquis presque toute l'Europe, Napoléon s'engage dans la campagne de Russie. Malgré un rapport de force qui lui est largement favorable, sa grande armée s'embourbe. C'est une victoire pour les Russes, une défaite pour Napoléon. Dans l'histoire européenne, rares sont les événements à avoir autant fasciné. Aussi bien du côté français que du côté russe, poèmes, romans, peintures et bien sûr études historiques ont exalté cette épopée tragique. Mais en fonction du côté où on se place, l'histoire n'est pas toujours la même. C'est pourquoi dans cette première émission, Jean Tullard, de l'Académie des sciences morales et politiques, a choisi de revenir sur les points de controverse entre historiens français et historiens russes. Monsieur le professeur, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Canal Académie. Vous avez relevé 6 points de polémique entre historiens français et historiens russes. Il y existe donc un débat entre les deux pays, n'est-ce pas ?
Alors, effectivement, il y a un débat très passionné et passionnant entre les historiens russes et les historiens français à propos de cette campagne de 1812. Il est évident que, comme chacun le sait, les historiens français sont chauvins. Le mot « chauvin » a été créé précisément à l'époque par un soldat qui s'appelait Chauvin. Et tout le monde sait que les historiens russes ont été d'abord imprégnés par la pensée de Tolstoï dans « Guerre et paix », qui est devenue une sorte de vulgate de cette campagne de 1812, puis ensuite par Staline, qui avait repris l'idée de la guerre patriotique en 1941-42, au moment de l'attaque de la Russie par Hitler. Donc, les débats sont très passionnés, et ce que je propose, c'est d'essayer, objectivement, en oubliant que je suis français, et en esforçant d'être un peu russe, de vous donner un point de vue sur ces points controversés. Alors, le premier point, c'est qui a commencé dans une guerre qui commence ? Bien entendu, pour les historiens russes, ce sont les Français, puisque Napoléon masse une armée de plus de 600 000 hommes sur la frontière du Niémen et qu'il franchit le Niémen pour attaquer les Russes. Donc, objectivement, c'est Napoléon qui attaque. Mais ce que les Russes oublient, c'est que déjà en 1811, le tsar avait rassemblé des troupes pour se préparer à envahir le duché de Varsovie, car la pomme de discorde entre Napoléon et Alexandre, c'était cette résurrection de la Pologne dont le tsar ne voulait pas. Donc en 1811, le tsar rassemble une armée pour une attaque éclair du duché de Varsovie. Mais Napoléon a de très bons espions, c'est plus Schulmeister, mais il y en a d'autres, et il est prévenu de ces mouvements de troupes et immédiatement, il donne l'ordre à Davout, aux forces qui sont en Allemagne, d'aller précisément rejoindre le duché de Varsovie et le tsar se rend compte que là, l'affrontement est inévitable, qu'il ne se sent pas encore tout à fait préparé. Donc, le tsar renonce à attaquer. Mais le premier à avoir rassemblé des troupes contre le duché de Varsovie, qui n'appartient pas à Napoléon, qui est sous l'autorité du roi de Saxe, mais enfin qui fait partie de la Confédération du Rhin, voyez bien que là, c'est quand même les Russes qui, les premiers, ont pris l'initiative de la rupture. Alors, deuxième point, c'est le fameux problème de la tactique de la terre brûlée. Les Russes sont enthousiastes devant leurs généraux, Bagration et Barclay de Tolly, qui, au lieu d'affronter Napoléon, bat progressivement en retraite, il recule, pour attirer ainsi Napoléon au fin fond de la Russie et tirer ses lignes de communication. La Russie est un pays vaste, donc progressivement, Napoléon s'enfonce, il perd des hommes, son armée s'effiloche, et puis au bon moment, alors, c'est l'affrontement et l'anéantissement de Napoléon. C'est cette tactique qui est exaltée par les historiens russes. Alors, il faut bien dire, Napoléon d'ailleurs y a répondu à Sainte-Hélène, que le recul des Russes ne relève pas de la tactique. Clausewitz lui-même est nuancé sur ce point. Ils reculent parce qu'ils sont en état d'infériorité numérique. Voilà une armée de 600 000 hommes. Enfin, il n'y en a pas tout à fait 600 000 qui traversent le Niemen. Mais enfin, on a l'impression qu'il y a une armée de 600 000 hommes avec le meilleur des généraux de l'époque. Et en face, qu'est-ce qu'il y a ? D'un côté, Bagration avec 100 000 hommes. De l'autre, Barclay de Tolly avec un peu plus. Mais les deux armées sont séparées. Et même si elles arrivent à faire leur jonction, on arrivera à quelque chose comme 250 000 hommes. Face au meilleur général, elles seront anéanties. Donc, lorsque Napoléon arrive à Vilna, où étaient concentrées une partie des troupes avec le tsar, quand il arrive à Vilna, les Russes ne sont plus là. Ils ne sont plus là parce que s'ils attendaient Napoléon, salut, bonjour, etc., ils seraient balayés. Ensuite, Napoléon les poursuit. Il les poursuit à Vitebsk. Et quand il arrive à Vitebsk, il n'y a plus personne non plus. Et il va ainsi s'enfoncer. Alors, il faut bien entendu nuancer, car je vous ai dit que je serais objectif, c'est une erreur de Napoléon de s'enfoncer. Et d'ailleurs, Berthier et certains généraux de son état-major lui disent « Attention, vous allez trop loin à partir de Smolensk, ça commence à devenir inquiétant ». Napoléon, sa stratégie, c'est une campagne éclair avec une victoire décisive. Rappelez-vous Austerlitz, rappelez-vous Iéna, rappelez-vous Wagram. Donc, ce qu'il cherche, c'est à anéantir les forces russes par une bataille, une seule bataille, et à ce moment-là, le tsar demandera la paix. Donc il cherche à tout prix à affronter les Russes. Il en a besoin, il faut qu'il remporte cette victoire. Donc il les voit, à chaque fois il croit les tenir, et chaque fois, parce qu'il y a aussi des ratés avec Junot ou avec Jérôme qui ratent les mouvements d'encerclement des Russes qui battent en retraite, mais donc Napoléon s'enfonce, il se lance à leur poursuite. Alors d'un côté, il y a quelqu'un qui veut à tout prix les attraper, et l'autre qui recule. C'est un peu le chat et la souris, mais vous voyez, il n'y a pas une politique délibérée de recul pour attirer Napoléon. La preuve, c'est qu'on avait prévu, influencé par les lignes de Torres Vedras au Portugal, ou sur, lignes sur lesquelles s'était brisé Masséna, on avait prévu un système défensif. Il y avait un camp défensif. Et puis, comme la jonction n'a jamais pu se faire entre Bagration et Barclay de Tolly, on a abandonné. Mais on avait bien prévu un système défensif. Donc, je dis, les Russes se sont reculés par peur. Et c'est Napoléon qui a été imprudent, n'écoutant pas son état-major, de se lancer à leur poursuite et d'aller trop loin. Mais il n'y a pas une stratégie concertée des Russes.
Mais donc, ni de réelle défaite, ni de réelle victoire dans un premier temps, en tout cas.
Et il n'y a pas de bataille.
Et pas de bataille.
Et pas de bataille. Donc, c'est assez désespérant pour Napoléon. Avoir une armée de 600 000 hommes, avoir devant 100 000 hommes d'un côté, 150 000 de l'autre, puis des troupes qui arrivent venant du front oriental, bon, et de ne pas pouvoir remporter de victoire. Et il faut dire qu'il a une armée trop forte de 600 000 hommes, qu'il a des lieutenants incapables comme Junot qui est fou, comme Jérôme ou Eugène qui ne sont pas à la hauteur. Bref, c'est évident que Napoléon s'enfonce imprudemment, mais ce ne sont pas les Russes qui l'ont attiré. Et puis, on arrive au troisième point controversé, je rappelle que nous en avons six. Au troisième point controversé, c'est la bataille de la Moscova ou de Borodino.
De faire une courte pause avant. Merci beaucoup, vous êtes toujours à l'écoute de Canal Académie. Nous sommes en compagnie du professeur Jean Tullard, venu nous présenter les points de controverse entre historiens français et historiens russes. Nous avons vu donc que pour la stratégie russe du repli a entraîné Napoléon jusqu'à l'intérieur de la Russie, assez loin, Sans bataille décisive pour l'instant, et nous allons arriver à un des points de controverse justement entre les historiens russes et historiens français, qui est la bataille de Borodino pour les uns, de la Moscova pour les autres.
Alors là, c'est le point le plus controversé. Voyez donc, Napoléon arrive aux portes de Moscou, toujours voulant battre l'armée russe, et l'armée russe qui recule toujours par peur d'avoir à affronter Napoléon et d'être battu. Il y a un moment donné où on ne peut plus reculer, parce que sinon Napoléon va entrer dans Moscou, la ville sainte, qui n'est pas la capitale, c'est Saint-Pétersbourg, mais qui est la ville sainte. Et donc à ce moment-là, évidemment, on ne peut pas laisser Napoléon entrer dans Moscou sans bataille. Et la preuve, c'est qu'on n'avait pas prévu cela, c'est qu'on modifie l'état-major et qu'apparaît Kutuzov, qui s'était illustré dans les campagnes contre les Turcs, et c'est Kutuzov qui va prendre le commandement, et ça va être l'affrontement de Borodino pour les Russes, de la Moscova pour les Français. Alors pour les Russes, inspirés par Tolstoï, Borodino, c'est une grande victoire. L'affrontement entre les deux armées est un affrontement qui convient bien, c'est-à-dire on s'attaque de front. Davout avait suggéré un mouvement tournant, mais Napoléon, enrhumé, malade, n'a plus vraiment cette énergie, cette lucidité, et donc ce sont des charges sur les lignes russes qui sont dans un système défensif, des batteries russes qui sont extrêmement meurtrières pour les Français. Alors les pertes françaises sont énormes. Il reste un nombre de généraux sur le tapis, si je puis dire, élevé. Mais à la fin de la bataille, les Russes se retirent. Donc, certes, les Français ont été saignés, les Russes aussi. Il me semble, lorsque dans ce sur un trottoir, vous voyez deux chiens qui se battent, celui qui a gagné, c'est celui qui reste sur le trottoir, tandis que l'autre s'en va la queue basse. Là, les Français ont gagné, puisqu'ils restent maîtres du champ de bataille, que les Russes se retirent en bon ordre. Napoléon, à l'inverse, ils étaient passés à Iéna ou à Austerlitz, Napoléon ne lance pas une poursuite pour les anéantir, il se retire en bon ordre, et néanmoins, il laisse la route de Moscou ouverte. Donc, il me semble que l'on peut parler de victoire de la Moscova, même si elle est très, très chèrement acquise, et pas du tout de victoire russe de Borodino. Alors, le quatrième point, c'est que voilà maintenant Napoléon à Moscou, et Moscou est en flammes. Alors, qui a incendié Moscou ? Évidemment, là, les points de friction sont quand même... Ce sont les Russes, indiscutablement. Quel intérêt avaient les Français à incendier Moscou ? Alors, incendie accidentel par des ivrognes, mais enfin, c'est toute une ville ne brûle pas, parce que vous avez quelques fêtards dans les rues de Paris qui ont mis le feu à quelques voitures. Toute une ville ne brûle pas. Il est incontestable que c'est le gouverneur russe qui a donné l'ordre d'incendier Moscou. Et là, sur ce point, on peut d'accord. Alors là, on voit effectivement la tactique de la terre brûlée. Cette fois, elle est là, on ne peut pas laisser cette ville sainte souillée par la présence étrangère. Reste un cinquième point, la retraite. La retraite, oui, Napoléon part trop tard, mais il n'y a pas de bulletin météorologique, donc il n'y a pas de prévision météorologique. D'ailleurs, c'est la grande faiblesse de Napoléon, c'est de ne jamais s'intéresser à la météorologie. Songez qu'il débarque en Égypte au mois de juillet, tous les jeunes mariés savent qu'on ne fait pas un voyage de noces en juillet en Égypte. Donc, il ne se soucie pas de la météorologie. Et il est vrai que l'hiver a été précoce. Alors, eh bien, nous, Français, nous avons tendance à dire « c'est le général hiver qui a vaincu Napoléon ». D'autant qu'il commet une erreur, il repasse par la route de l'allée, et vous savez, quand une armée est passée sur une route, il ne reste plus rien. Plus une poule, plus une jeune fille, plus une vache, rien. Donc, il n'y a plus d'approvisionnement sur le retour. Napoléon, c'est un autre point de faiblesse de sa stratégie, ne sait pas battre en retraite. Donc, c'est le général hiver qui l'a détruit. Ah non, disent les Russes. Non, non, ce sont les hurrahs des Cosaques qui ont harcelé, selon les principes de la petite guerre, de la guérilla. Et puis, ce sont les paysans qui se sont soulevés contre l'envahisseur dans un élan patriotique. C'est ce que les Russes appellent la guerre patriotique que Staline va exalter en 1942 de façon extraordinaire, avec notamment le fameux film Kutuzov. Voilà, alors... L'hiver a joué un grand rôle, et puis, incontestablement, les guérillas ont usé cette armée qui s'est progressivement décomposée. Sixième et dernier point, la Bérézina. Vous savez, on dit toujours « c'est une Bérézina ». Et c'est passé comme l'image du désastre. Et les Russes sont très fiers de dire « Ah, nous avons vaincu à la Bérézina ». Que se passe-t-il ? Napoléon, battant en retraite, se trouve confronté au fleuve de la Bérézina qui n'est pas gelé. Contrairement à ce qu'on pouvait espérer, on peut passer, quand il y a une glace épaisse, on peut franchir un fleuve. Là, l'eau est froide, mais il n'y a pas de glace. Il y a des glaçons, mais il n'y a pas véritablement une glace unie qui permettrait de franchir. Donc, les troupes russes arrivent sur les rives et menacent d'encercler ce qui reste de la grande armée, c'est-à-dire quand même encore 100 000 hommes, avec Napoléon, avec son état-major, etc. Napoléon va manœuvrer loin d'un guet qu'il connaissait sur la Bérézina pour faire croire aux Russes qu'il va passer sur ce guet. Et dans le même temps, tandis qu'il manœuvre, il fait construire des ponts par le général Eblé, qui laissera sa santé. Il faut dire qu'il n'y a qu'une petite rue à Paris, Eblé. Ça méritait mieux, à mon sens, parce que c'est un héros. Et ces pontonniers ont été héroïques. Ils sont tous morts après de fluxions de poitrine, emportés par le froid. Et donc, Napoléon échappe avec son armée. Enfin, une partie de son armée reste sur la rive et sera anéantie parce qu'à un moment donné, il a fallu détruire les ponts pour empêcher la poursuite russe. Néanmoins, c'est une victoire de Napoléon qui échappe à l'encerclement des Russes et peut donc continuer sa retraite.
Mais là encore, les pertes sont effroyables, entre autres les traînards.
Oui, alors les pertes sont effroyables et on va dire Napoléon a subi un désastre sans précédent. Les pertes sont effroyables, moins grandes que vous ne le pensez, moins grandes que vous ne la pensez, parce qu'il y a beaucoup de déserteurs, il y a beaucoup de prisonniers, il y a beaucoup de gens qui avaient déjà, étaient déjà retournés chez eux. Bref, ne repasse le Niémen que 25 000 hommes, mais sur 600 000, c'est évidemment beaucoup, mais il y en a qui vont passer ensuite. Napoléon, lorsqu'il quitte son armée, parce qu'il est prévenu qu'il y a eu la conspiration Malais, lorsqu'il quitte son armée, a encore l'espoir de l'installer sur le Niémen pour contenir les Russes. Et il y a encore aussi l'espoir que les Russes, et Kutuzov ne voulait pas, ne vont pas continuer la poursuite après le franchissement du Niémen. Si Napoléon avait contenu les Russes sur le Niémen, mais ça c'est la faute de Murat et puis d'Eugène de Beauharnais qui commandent la dernière partie de la retraite, et c'est là où c'est la catastrophe. Avant, ça tient encore. Après la Bérézina, ça tient encore, mais là, c'est fini. Si Napoléon avait pu établir son système défensif, il avait encore une chance. Mais à partir du moment où il laisse les Russes envahir l'Allemagne, la trahison de la Prusse puis de l'Autriche vont anéantir l'Allemagne napoléonienne et tout le reste va s'écrouler comme un château de cartes.
Merci infiniment, Jean Tullard. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Au revoir.